100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, puisqu'on célèbre tous les saints ce 1er novembre, penchons-nous sur le tombeau d'une figure historique de la chrétienté. Il y a quelques mois à Rome, suite à des travaux de restauration d'une petite église de la ville, dans le quartier du Trastevere, un archéologue a découvert ce qui pourrait être les véritables reliques de Saint Pierre, premier pape de l'histoire. Jusqu'ici, les restes attribués à l'apôtre étaient censés reposer sous la basilique Saint-Pierre au Vatican. Une découverte qui relance l'un des plus grands mystères de l'histoire de la chrétienté que l'archéologue a raconté à Olivier Bonnel.
Santa Maria in Capella est une église parmi tant d'autres dans la ville éternelle, fermée encore au public pour restauration depuis de nombreuses années. Cristiano Mengarelli nous fait passer la porte que ne pousse encore aucun visiteur.
Ce que vous voyez ici, c'est un épigraphe dans du marbre, une inscription qui indique 1090, l'année de fondation de l'église. Mais en la déchiffrant, on peut lire que des reliques y ont été consacrées. Et dans la liste des noms, il y a celui de la Vierge, mais aussi celui de l'apôtre Pierre.
Et les reliques de l'apôtre Pietro.
C'est dans le cœur de l'édifice, en restaurant l'autel, que l'archéologue a fait sa découverte.
En retirant l'autel principal, on a découvert cette boîte contenant deux petits vases arrondis en terre, recouverts d'un couvercle de plomb, des morceaux de bois et des plaquettes de plomb. Là, nous voyons deux séries de plaquettes et sur l'une d'entre elles est gravé le nom de Saint-Pierre. En retirant le couvercle des vases, nous n'avons trouvé aucune altération, aucune trace qui prouve qu'elles ont été manipulées. C'est vraiment une grande émotion pour moi, parce que c'est rare de trouver des restes de reliques non altérées.
Les fragments osseux sont en cours d'analyse. Les reliques officielles du premier pape reposent, elles, sous l'autel de la basilique Saint-Pierre au Vatican, attestées comme très probables en 1968 par le pape Paul VI. Près de 40 ans plus tard, l'église Santa Maria in Capella pourrait, fort de cette découverte, devenir une étape incontournable des tours opérateurs religieux à Rome.
Depuis la création du marché unique, les biens, capitaux, services et personnes circulent librement en Europe. Mais une fois qu'on décède, cela se complique sérieusement. On en sait quelque chose à la frontière franco-belge. Alice De Baptiste s'est rendue chez un directeur de pompes funèbres à Moucron. Un Français vient de décéder dans la région. L'homme doit être enterré dans la ville française de Tourcoing, à 2 km de là. Le problème, c'est qu'entre les deux villes, il y a une frontière.
Sur le parking de ce funérarium belge, une camionnette communale et un corbillard français viennent d'arriver. Tout le monde est réuni dans une salle annexe. Le directeur nous ouvre la porte.
Donc mon confrère donc, est venu avec son cercueil en bois, donc garni à l'intérieur d'un cercueil en zinc. Il va procéder à la mise en bière.
La mise en bière, c'est le moment où l'on place le défunt dans son cercueil. Mais pourquoi faut-il obligatoirement un cercueil en zinc pour passer la frontière? Philippe Six, directeur de pompes funèbres à Neuville-en-Ferrin, nous explique.
Bonne question, c'est une loi de Napoléon qui nous dit que franchement, quand on franchit les frontières, il faut mettre un zinc.
C'est une question sanitaire?
C'est une question sanitaire, oui. Mais ce que nous, on déplore, c'est que, quand on fait un long voyage de 1000 km, ou alors, par exemple d'Algérie ou tout ça, d'accord, mais de Moucron à Tourcoing, ou Neuville-en-Ferrin, c'est de l'aberration.
Pour quelques kilomètres, les familles vont donc devoir débourser 450 euros pour un cercueil zingué. Et des cas comme ceux-ci ne sont pas rares dans la région.
Oui, à Moucron, environ 80 à 100 résidents français passent chaque année la frontière. En majorité, oui, ce sont des personnes qui viennent dans des homes en Belgique.
Pour le transfert d'un corps à la frontière, la présence d'un employé de la commune est également obligatoire. Il doit être témoin présent pour la fermeture du cercueil.
On va fermer le cercueil devant l'employé communal.
Et doit maintenant poser des scellés.
J'ai un briquet, le sceau de la ville de Moucron et de la cire à sceller.
L'équipe des pompes funèbres françaises devra encore attendre une heure le laissez-passer mortuaire. Pour Philippe Six, toutes ces procédures sont trop complexes et parfois aberrantes lorsqu'il s'agit d'incinération. En France, les crématoriums ne peuvent plus retirer un cercueil de zinc. Si un ressortissant français décède de l'autre côté de la frontière, il ne pourra plus être incinéré sur le sol français.
J'ai un contre-obsèque que la famille m'a demandé d'incinérer à Ouattrolo et d'aller dans un columbarium. Ben, aujourd'hui, je ne peux plus respecter le contre-obsèque puisque je suis obligé d'incinérer en Belgique. Alors donc, j'emploie le terme comme j'employais en France. Nos défunts français sont pris en otage par ce système de loi qui, la loi, je ne sais pas, parce qu'on parle de l'Europe, mais l'Europe, ben non, il n'y a pas d'Europe pour le système funéraire.
La question avait déjà fait l'objet d'une proposition de résolution au Parlement européen en 2003. À l'époque, les eurodéputés dénonçaient les modalités de transfert des dépouilles d'un État à un autre. Pour eux, ils créent un obstacle à la liberté de circulation.
Une victoire pour 30 000 salariés précaires embauchés par l'État au Portugal. Fait exceptionnel désormais en Europe, ils viennent de faire l'objet d'une intégration dans l'administration. Mais les professions de santé et d'éducation sont les grands oubliés. Alors que le gouvernement d'alliance des gauches présente son troisième budget anti-austérité, du coup, la fonction publique reste mobilisée, Marilyn Darcy.
Les précaires d'État n'ont pas ménagé leurs efforts pour rappeler au pouvoir public qu'ils devaient donner l'exemple et intégrer leurs travailleurs sans vrai statut. Rassemblements et dépôts de revendications ont jalonné les derniers mois des précaires. Mais la loi est désormais votée. Daniel Carapeau, géographe boursier en CDD sans cesse renouvelé dans un organisme d'État, la Fondation pour la Science et la Technologie.
C'est une chance exceptionnelle qu'il faut saisir. La dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 20 ans, sous le gouvernement du socialiste Antonio Guterres. Depuis 1996, il n'y avait pas eu d'intégration de précaires des services de l'État. Sauf que la nouvelle loi ne s'applique pas à tous. Par exemple, les fonctionnaires territoriaux en sont exclus. Et puis il y a des éléments non définis. Est-ce que les années de précarité vont compter dans l'ancienneté et la progression hiérarchique? Il y a encore des doutes.
Tania est une jeune médecin. Elle aussi est considérée comme précaire. Bien qu'elle travaille dans un hôpital public, elle a dû créer sa société pour s'assurer un revenu décent.
J'ai un contrat à durée déterminée et le paiement d'une partie de mes revenus se fait grâce à la société que j'ai dû créer. Pour me faire payer mes propres heures supplémentaires, j'ai mis une facture au nom de ma société. C'est ce qui m'a été imposé par l'hôpital où je travaille, une sorte de partenariat public-privé.
Le personnel hospitalier et notamment les infirmières sont exclus de la première phase d'intégration. Le processus est jugé incomplet. José Guzmán, économiste et membre du Bloc de gauche, l'un des alliés des socialistes au pouvoir, un parti qui lutte contre la précarité du monde du travail.
Dans la loi du travail, on a un programme d'intégration des précaires de l'État. Mais les effets sont un peu limités. C'est encore en marche, mais on a des raisons pour penser que ça ne va pas avoir un effet dans la totalité ou même la plupart des précaires de l'État. Mais surtout, dans la précarité au marché du travail en général, et je pense que le gouvernement en général pense que la flexibilisation des rapports de travail a été une bonne politique.
Ils mangent tout et ne nous laissent rien, dit la chanson. Une version moderne de la chanson de la Révolution démocratique de 1974 pour rappeler combien la situation des précaires est difficile. La droite, qui a réduit considérablement le nombre de fonctionnaires publics pendant les années d'austérité de 2011 à 2015, a voté contre le projet d'intégration. Le député Antonio Letant Amaro justifie la position de son parti.
Nós não queremos critérios de manipulação.
On ne veut pas de manipulation et des critères d'intégration favorisant l'un ou l'autre. Quand on signale des situations illégales, alors bien sûr il faut agir. Mais l'an dernier, le gouvernement a augmenté la précarité en signant 6000 contrats. Notre code du travail plus flexible depuis 2013 a facilité les CDD et les CDI et permis de réduire la précarité dans le privé. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par un processus qui est mené sans transparence ni objectivité.
Tania, la jeune médecin, si elle se félicite de l'avancée des dossiers, préfère se montrer prudente.
C'est vrai que dans ce contexte, avec une initiative parlementaire d'intégration, au moment où le pouvoir est davantage aux mains des députés de gauche qui plus est, la lutte contre la précarité a plus de poids. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et les gens ont peur. Ils continuent à avoir peur d'attirer l'attention sur leur cas, d'être stigmatisés s'ils revendiquent.
30 000 contractuels ont déposé un dossier pour une première phase d'intégration au printemps 2018. Il serait 100 000 selon les calculs de l'État, dont le sort est loin d'être réglé. Dans les hôpitaux et les écoles, on reste mobilisé.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Bienvenue pour votre chronique jeune du mercredi. On les appelle les au-pair et il s'agit presque exclusivement de jeunes filles. Elles ou ils viennent de l'étranger pour garder les enfants d'une famille en échange du gîte et du couvert et d'un peu d'argent de poche. Alors c'est un job qui existe depuis toujours, qui concerne aujourd'hui plutôt des étudiantes qui souhaitent ainsi financer un voyage ou apprendre une langue étrangère et qui rencontre toujours autant de succès. Pourtant, il y a quelques semaines, Eve, un fait divers macabre a relancé le débat sur l'encadrement de cette fonction. Cela s'est passé à Londres.
Elle s'appelait Sophie Lyonnais, avait 21 ans et a été retrouvée calcinée dans le jardin de la maison pour laquelle elle travaillait, dans un quartier cossu de Londres. Forcément, son histoire a ému la communauté des au-pairs de Londres qui s'est rassemblée au début du mois d'octobre symboliquement dans un parc de la ville pour attirer l'attention du grand public sur leur situation. Car bien souvent, les conditions de travail de ces jeunes gens restent peu encadrées par les textes législatifs, surtout en Grande-Bretagne, et aucun contrôle n'existe. C'est donc toujours un peu la loterie pour ces jeunes étudiants qui arrivent de l'étranger.
Alors, quel est le profil de ces jeunes qui décident de tenter leur chance à l'étranger ?
Alors, l'écrasante majorité des au-pairs sont des filles, entre 18 et 26 ans à peu près, car certaines familles continuent de les préférer aux jeunes garçons. On estime donc que ceci ne représente que 5% des au-pairs. Le modèle reste très populaire dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Australie, qui sont les plus gros demandeurs de candidatures chaque année. 40 000 postes, par exemple, à pourvoir tous les ans dans les familles britanniques. Et les jeunes Français ont plutôt bonne réputation. Le temps et les conditions de travail doivent être mis au point avec la famille. Mais il varie généralement entre 25 et 45 heures. Les week-ends sont aussi à négocier. Normalement, le jeune est nourri et logé et touche l'équivalent d'un petit salaire hebdomadaire sous forme d'argent de poche, environ 100 euros par semaine. Officiellement, son job est de s'occuper des enfants, mais bien souvent, la situation précaire de ces jeunes au-pairs joue en leur défaveur et les abus sont très nombreux.
Alors, de quel genre d'abus parle-t-on, Eve ?
Eh bien, selon une étude effectuée par le Migrants Rights Center of Ireland, le centre de l'immigration irlandais, les jeunes au-pairs résidant dans ce pays travaillent en moyenne plus de 70 heures par semaine pour moins de 120 euros, sans pause pendant la journée, ni vacances rétribuées. Un tiers des jeunes filles interrogées lors de ce sondage déclarent même se sentir fortement exploitées. On ne peut pas dire que cela fasse vraiment rêver.
Non, pas vraiment. Comment limiter les risques pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'aventure ?
Déjà, on peut leur recommander de passer par une agence. Il en existe plusieurs, spécialisées par pays d'origine ou au contraire de destination. Parmi les plus grosses, les plus connues, on peut citer Au Pair World ou Europair, ou en France, l'Union française des agences Au Pair. L'avantage de ces structures, c'est qu'elles offrent quelques garde-fous, un nombre d'heures de travail fixé à 30 heures par semaine maximum et une rémunération comprise entre 80 et 100 euros la semaine. Mais surtout, ces agences recrutent les familles autant que les candidats sur un certain nombre de critères et peuvent donc demander des extraits de casier judiciaire vierge, par exemple, histoire de savoir quand même un peu où l'on met les pieds. Mmh. Autre plus, ces agences ont souvent des contacts sur place. Donc, en cas de souci, le jeune au pair peut ainsi contacter par téléphone quelqu'un qui saura l'aiguiller, l'écouter, voire le cas échéant, le changer de famille.
Mmh. Autre conseil, prendre le temps de contacter la famille d'accueil avant d'arriver, histoire de se mettre d'accord sur toutes les conditions du séjour.
Oui, aujourd'hui avec Skype hein, et toutes les autres possibilités d'appels vidéo, il ne faut pas hésiter évidemment à s'appeler pour découvrir la famille, les enfants avec qui vous êtes censé passer le plus clair de votre temps, vous présenter, développer les points qui vous paraissent les plus importants, négocier vos vacances par exemple. Et si vous vous baladez un peu sur le net, vous trouverez d'ailleurs des dizaines de vidéos de témoignages de jeunes au pair qui répondent aux questions des internautes ou qui juste racontent leur séjour et donnent leurs bons conseils.
Et pour ceux qui veulent essayer la vie au pair sans s'engager pour une année entière, eh bien, on peut aussi faire un essai.
Oui, certaines familles recherchent des jeunes au pair pour une période de vacances, une semaine, deux semaines, l'occasion de tester le dispositif et de se rendre compte si cela est vraiment fait pour soi. Et qui sait, peut-être cela vous donnera envie de tenter l'aventure l'année suivante.
Merci Eve Mino pour tous vos bons conseils. Chronique et liens à retrouver sur notre page Accent d'Europe. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
La prière pour Marta. Ce morceau est devenu l'hymne officieux de la République tchèque, en grande partie grâce à son interprète Marta Kubišová, qui met fin ce 1er novembre à une incroyable carrière le jour de son 75e anniversaire. Égérie du printemps de Prague, Marta Kubišová a interprété pour la première fois cette chanson en 1968 en réaction à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. S'en suivra la tristement célèbre normalisation du pays et la mise à l'écart de la belle chanteuse qui devra attendre plus de 20 ans avant de pouvoir remonter sur scène. Portrait de cette grande dame de la chanson tchèque avec Alexis Rosenzweig.
C'est l'un des épisodes les plus émouvants de la révolution de velours et de la chute du communisme à Prague en novembre 89. Marta Kubišová prend place sur le balcon qui surplombe une place Venceslas noire de monde et entonne a cappella sa prière pour Marta, de sa voix inimitable qu'elle explique par des angines à répétition et la cigarette. Cette chanson est alors interdite depuis une vingtaine d'années. Elle et son interprète sont considérés comme trop hostiles au régime inféodé à Moscou. Ce régime ne lui pardonnera pas son soutien à Alexander Dubček et fera tout subir à celle qui était pourtant une idole et qui a chanté jusque sur la scène de l'Olympia à Paris. Un photomontage pornographique est d'abord censé la discréditer, elle est ensuite interdite de concert et se voit contrainte d'exercer différents métiers pour survivre, de la couture au secrétariat. Son premier mari, le réalisateur Jan Niemetz, choisit l'exil. Elle reste pour s'occuper de sa mère, malgré les brimades de la STB, la police communiste. Bien qu'isolée à la campagne, elle est sans arrêt espionnée et surveillée, même par son deuxième époux, recruté comme indique. Ce ne sera pas assez pour la dissuader de défendre les principes de la charte 77, un texte pour le respect des droits de l'homme en Tchécoslovaquie, que son ami le dissident et futur président Václav Havel contribuera à faire connaître dans le monde. Chantage et fausses promesses ne la feront pas craquer. Malgré des interrogatoires qui durent des journées et des nuits entières, pendant que ses anciens collègues doivent se compromettre avec le régime pour poursuivre leur carrière. Elle n'en garde pas d'animosité particulière aujourd'hui et préfère consacrer son temps à la défense des animaux plutôt que de ressasser un passé douloureux. Elle se dit fatiguée, mais une fois sa dernière prière chantée sur scène ce mercredi soir, Marta Kubišová a quand même promis à ses nombreux fans qu'elle se mettrait à l'écriture de ses mémoires.
Ludivine Amado a réalisé et mis en onde cette édition d'Accent d'Europe. À demain, dès 12h40 en universel.